En direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, là. On ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est une surprise. Oh, bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes, le premier de cette nouvelle saison. Le rideau s'ouvre sur la grande scène, on prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir tout le monde!
Bonsoir!
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 À chaque semaine, on vous prépare tout un cabaret autour d'un seul thème, un thème différent par émission, et je vais vous dévoiler ce thème dans quelques instants. Christine Gélina, Geneviève Proulx et Juan Blasco, heureux de vous revoir cette saison au cabaret. Avez-vous passé un bel été, Christine?
Un très bel été, Jean-François. J'avais hâte de vous retrouver, de me lancer dans cette nouvelle aventure et surtout de retrouver nos auditeurs.
Merci, Christine. Juan, t'as passé un bel été?
J'ai passé un très, très bel été, Jean-François. Le cabaret m'a beaucoup manqué, mais j'en ai profité pour faire quelques petites découvertes, notamment sur notre sujet de ce soir.
Oui, tout un sujet ce soir. Et toi, Geneviève?
Excellent été, visiter quelques amis par distanciation à Sherbrooke, ça m'a fait le plus grand bien. Et j'en ai profité également pour faire mes tomates, en fait, et je suis toujours dedans. Alors, mesdames et messieurs, je suis en train d'accomplir bientôt mon 50 livres, là, ça s'en vient.
Vous entendez le son un peu métallique de nos voix, les personnes qui ne sont pas en studio, on n'est pas encore en déconfinement du cabaret des acolytes. Alors, vous nous excuserez sur certains sons métallisés de la voix. Alors, cette année, une grande nouveauté, nous sommes diffusés sur les ondes de CJPF avec Martin Grenier et toute son équipe, qu'on salue d'ailleurs. On se joint donc à la grille horaire de ce beau monde vraiment sympathique. Allez les écouter, c'est au cjpf.ca, la radio, c'est juste pour le fun. D'ailleurs, il n'y a pas seulement nous comme podcast, il y en a d'autres. De mémoire, la paire d'écouteurs, le podcast de Don Boudria qui va être nouvellement sur leurs ondes. Également, ça reste dans la cave. Je répète l'adresse cjpf.ca. Alors, vous nous écoutez, vous nous aimez. On aimerait aussi que vous participiez à notre aventure. Alors, allez sur notre page Facebook pour nous aimer et nous suivre. Je reviens vers vous dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter à nos auditeurs le thème de ce podcast. Cette semaine, on célèbre un spiritueux en pleine croissance, mettant les arômes de la baie de Genièvre tout à l'honneur. Dans nos traditions, ce n'est pas le spiritueux le plus noble. Nos grands-mères l'utilisaient pour apaiser le rhume avec du miel, du citron et un peu d'eau, et nos grands-pères pour s'apaiser tout court. Mais aujourd'hui, depuis l'allègement au Québec des lois sur les micro-distilleries en 2018, les goûts ont évolué. Les Québécois n'ont plus leur cœur pour les Tanqueray, les Beefeater, les Bombay Sapphire ou les Gordons. Non, nous sommes de plus en plus nombreux à la SAQ à opter pour un produit d'ici aux aromates d'ici. On volait la vedette, le Bleu Royal, Longava, Romeo's Gin, la Radoune, pour ne nommer que ceux-ci. On en compte aujourd'hui 105 différents, si on ajoute aussi tous ceux qui sont produits et vendus uniquement dans les très petites micro-distilleries et non pas à la SAQ. Que vous l'aimiez herbacé ou végétal, floral ou fruité, forestier ou boréal, vous serez comblé. Ils sont nombreux les artisans maîtres distillateurs à préparer dans leur alambic cette boisson issue de la distillation d'un alcool neutre. Certains le consomment pur, mais il est plus fréquent de le consommer en cocktail. Et le plus célèbre de ces cocktails, le gin tonic. Mais il existe aussi d'autres cocktails très connus, Pink ou le White Lady, le Tim Collins ou, comme les Italiens l'aiment bien, le Negroni. Alors, vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour du gin, mais pas n'importe lequel, le gin québécois. Je me retourne vers vous, les acolytes. Christine, celle qui va tout au long de ce cabaret nous égayer avec tes choix musicaux. Bonsoir, Christine. On t'a pas donné la tâche facile cette semaine. C'était assez ardu de trouver des musiques qui tournent autour du gin, surtout les musiques québécoises. On s'attendait peut-être à ce que Plume, Richard Desjardins ou Charlebois aient composé une ou deux tunes mentionnant le mot gin, mais pas du tout.
Ça a été un peu plus compliqué, en effet, mais le plaisir de la recherche est toujours présent. Puis d'ailleurs, pour moi, les nouveautés de cette saison, j'ai fait le tour des réseaux sociaux, puis je vais vous en faire part un peu plus tard.
Merci, Christine. Tous les amateurs de gin du Québec, les vrais, il y a toute une communauté, connaissent sans doute Madame Gin. On l'aura en entrevue. Elle est très charmante. Elle va nous parler de sa passion pour les gins québécois, des suggestions de gin à déguster pour cet automne. Et puis, je vais lui demander son avis sur la qualité des gins qu'on produit si on se compare à l'international. Geneviève, notre épicurienne, pour ta part, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler de la fabrication de base des gins et je vais également vous parler, en fait, des meilleurs endroits où les déguster.
Merci, Geneviève. Juan, ce soir, notre cher historien, tu vas nous éclairer un peu plus sur les origines du gin, mais aussi plus précisément sur celle de ce cocktail très populaire qu'est le gin tonic.
Alors exactement, Jean-François, une histoire riche. Le gin a presque 400 ans, en fait, si on retourne à ses toutes premières origines. Donc beaucoup à dire sur le sujet.
Oui, tu vas nous parler des Anglais, des Hollandais, des Espagnols et même des Incas.
Exactement.
Merci, Juan. Janelle Touchette, une nouvelle chroniqueuse au cabaret des Acolytes, viendra aussi faire son petit tour. Elle va nous présenter des gins québécois qui sont à découvrir pour leur originalité. Et moi, cette semaine, je vous parle de deux livres. Le premier livre, L'apéro du Québec. Si vous connaissez les deux fondateurs de un ou deux cocktails, je ne sais pas si vous les connaissez autour de la table.
Non, je ne les connais pas.
Alors, c'est eux qui sont également derrière ce bel ouvrage. Et aussi, je vais vous parler de Elixir, un magnifique livre de Marie-Ève Bourassa et illustré par Bruce Roberts. Alors, les acolytes, si vous le voulez bien, dans 5, 4, 3, 2, 1, ça démarre, le cabaret est ouvert sous le thème du gin québécois. Gin tonic. Gin tonic. Gin tonic. Christine, qu'est-ce qu'on écoutait?
On écoutait Usa Franco avec la chanson
Gin tonic! On l'aurait dit.
Oh, vraiment?
Un groupe montréalais formé en 2012. En fait, comme je le mentionnais en introduction, cette année, je vais aborder les réseaux sociaux en fonction de notre thème. Cette semaine, mes recherches se sont donc orientées vers quelques groupes Facebook. J'ai découvert deux groupes en particulier, très actifs sur Facebook. Le groupe Le Laboratoire de Madame Dune, justement,
ben oui.
On va l'avoir en entrevue tout à l'heure. Mm-hmm. Et le groupe Gin Gin. assurément, les amateurs de gin québécois doivent devenir membres de ces deux groupes. On retrouve de tout, les nouveautés de gin, les endroits où déguster un bon gin en apéro, les distilleries à visiter, des recettes de cocktails. Madame Gin propose même notre gin astrologie. Tout ce qu'on veut. On okay, y retrouve.
Ah, waouh, c'est vraiment cool.
Je pensais pas que tu allais parler de Gin Gin, mais cette semaine, ou pendant nos recherches, j'ai pensé à notre tante et je la salue si elle nous écoute, qui s'appelle Jeanne, mais on l'a toujours appelée Gin Gin.
Oui.
Et cette semaine, je me demandais si c'est parce qu'elle boit du gin, mais elle boit pas de gin, je pense pas.
Mais Jean-François, c'est une fidèle auditrice.
Ah, bon, ben, bonjour, Gin Gin. Alors, merci Christine. On revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Deux mots pour vous dire que ce podcast est rendu possible, notamment grâce à Balado Québec. On les remercie. Et le Cabaret des Acolytes est aussi disponible sur Spotify, Apple, Google et la plupart des podcasts. Finalement, un mot pour vous dire que si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez le permet, allez mettre une petite note d'appréciation. Alors, on poursuit le cabaret sous le thème du Gin Gin québécois.
Ça prend la tête, ça prend le texte. Gin tonic, au fond de camberge. Gin tonic, j'en prends une à la santé de Serge. Gin tonic, au fond de camberge.
Excusez-moi. Vas-y, Christian.
J'en prends un à la santé de Serge. J'ai découvert.
T'as découvert Serge?
En fait, j'ai découvert en feuilletant ou en lisant dans les groupes Facebook qu'il existe un univers complet que je ne connaissais pas, de collectionneurs de gin. Mm-hmm. On peut collectionner le gin parce qu'on aime le goût, mais aussi parce qu'on aime les différentes formes de bouteilles de gin, les différentes étiquettes. Et les fabricants le savent aussi. Ils nous en donnent pour notre argent en nous présentant des belles bouteilles et des étiquettes jolies à l'œil. J'ai même trouvé un poste où chacun se montrait son présentoir de gin. Puis il y a beaucoup de travail et beaucoup de goût vraiment dans chacun des présentations.
C'est vrai. Sur Instagram aussi, les gens s'amusent là, à vraiment bien présenter leur cocktail avec leur gin, la bouteille, avec les aromates qu'ils ont ajouté dedans, s'ils ont ajouté des aromates. Donc, on poursuit le cabaret sous le thème du gin québécois. Geneviève, avant d'aborder... j'ai dit Geneviève... Geneviève.
Ah,
Geneviève.
Oui, hein?
Geneviève.
Oh là,
ouais. Geneviève, avant d'aborder ce spiritueux, il faut bien savoir de quoi on parle exactement quand on parle de gin. Alors, tu nous as découvert la recette du gin.
En effet, merci Jean-François. Donc, la recette de base demeure fort simple. Alors, ça prend la fermentation alcoolique d'un malt, d'un orge, d'un seigle, de maïs, OK? De seigle de maïs, etc. Un alcool neutre, en fait. Et ensuite, on y ajoute de bonnes baies de... Pas Geneviève.
Geneviève.
Et voilà. Puis c'est très important que ces petites baies-là soient en pleine forme, mes amis. On veut pas de baies rabougries qui peuvent donner un goût, malheureusement, pourri, terreux ou encore de vieux sapin.
Ah, OK. Donc, la qualité importe. Oui.
Vraiment. Puis ensuite de ça, un coup qu'on a fait macérer nos belles genièvres et tout ça, là, on ajoute tout simplement les aromates de notre choix. Donc,
parce que, juste un mot, Geneviève, parce que c'est important de le dire que c'est pas un gin s'il n'y a pas la baie de genièvre.
Absolument.
Ça ne peut pas avoir la dénomination d'un gin.
C'est ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait absolument les baies de genièvre, comme je disais. Et ensuite, on y va avec les aromates de notre choix. Donc, ça peut paraître relativement simple à la base. Par contre, le secret, il y a un tour de main au travers de ça. Le secret réside dans la qualité, justement, comme on parlait, et la quantité.
Bien, c'est en fait entre la science et l'artisanat. Hein? C'est amusant de voir comment les distillateurs travaillent le gin et les aromates à l'intérieur de leur solution.
Effectivement. Il faut vraiment choisir comme il faut des ingrédients de bonne qualité, la bonne quantité avec lesquelles on décide d'aromatiser notre gin, finalement. Donc, au goût du dégustateur à venir, finalement, on peut vraiment se lâcher. Mais comme je disais, même si ça paraît simple à la base, attention, maintenant, produire la bonne force d'arôme désirée qui va être agréable avec les épices qu'on a choisies, les aromates qu'on a choisis, c'est pas si évident. Est-ce qu'on écrase nos baies? Est-ce qu'on les garde entières? Et combien de temps on les laisse macérer. Tout ça, là, c'est vraiment un art, en fin de compte, là, Jean-François, ou une science, comme on disait un petit peu. Là. Je rejoins ton point là-dessus.
Ouais.
Donc, pour ceux qui ont opté pour faire leur pain maison cette année ou leur conserve de tomates, peut-être comme moi, et qui désirent faire leur gin à la maison, évidemment, il y a plein de possibilités pour vous. Il y a des kits qui existent, qu'on appelle des kits Genius. Ils sont disponibles à plusieurs endroits, bon, aux alentours d'une soixantaine de dollars et plus, entre 60 et 100 dollars.
C'est une compagnie maintenant, québécoise, ça, Geneviève?
Oui, absolument.
OK.
Par contre, franchement, on a tellement des artisans d'une expertise incroyable au Québec. Mm-hmm. Ça serait le fun de s'en remettre à ça et de déguster vraiment, des choses haut de gamme. C'est évidemment possible d'obtenir de délicieuses bouteilles de gin, de délicieux gin à la Société des alcools du Québec, c'est sûr. Mais par exemple, si vous n'êtes pas certain, moi, je ne sais pas trop, ça me tente d'explorer ça, j'ai un appel au gin. Alors, pourquoi pas en profiter pour faire une tournée des bars à gin et justement pouvoir découvrir plusieurs variété et ensuite de ça, vous procurer, vous munir des bouteilles de la sorte de gin qui vous a tellement séduit.
Ben oui, parce que sinon, ça peut coûter cher, hein?
Ben, quand même. C'est un bon investissement, par exemple, parce que si toi, tu ne l'aimes pas, peut-être que moi, je vais l'aimer. Mais bon. Le premier que je vais vous parler, c'est celui qui est le plus connu, mais quand même un de mes préférés. C'est le Pourfoyeur qui est adjacent au marché Jean Talon. Mm-hmm. D'excellents barmen vont vraiment utiliser leur expertise pour vous diriger vers qu'est-ce que vous pourriez aimer déguster. Et ils offrent environ une quarantaine de gins québécois.
Ah ouais, quand même.
Quand même. Donc, à votre disposition, il existe également, peut-être pour les gens qui ne sont pas dans ce secteur-là, il y en a un autre Pourvoyeur qui est sur Fleury. Alors, voilà, mon deuxième endroit où on peut déguster, et là, attention, mesdames et messieurs, c'est de la grosse pointure ici quand même en attrait de gin québécois d'endroit, c'est le pub L'Île Noire. Alors, le pub ben ou le pub de L'Île Noire.
Sur Ontario.
Exactement. Ah, oui. Mm-hmm. Ils sont quand même qualifiés en plusieurs, hein, Christine?
Les whiskies, les scotch, les.
Oui.
Et les.
Dans le temps, il y avait les cigares aussi.
On a des connaisseurs de l'île noire ici, apparemment.
Oui, ça vieillit un petit peu, ça.
Oh!
Oui, bon! Non, c'est ça, mais effectivement, l'île noire est vraiment un endroit formidable dont on retrouve une carte, mesdames et messieurs, très impressionnante. On parle quand même, on parle de 70 gins environ quand même. C'est quand même assez considérable.
Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir goûter des gins qu'on n'a même plus à la SAQ ou qui ne sont même pas distribués. Et puis c'est ce qui est agréable d'aller dans ces endroits-là. Hein.
Puis au vert, oui. T'es pas obligé d'acheter la bouteille. Là.
Ben oui, c'est ça. Ben oui.
Exactement. Puis après ça, si on l'aime tellement, celui qu'on découvre, qui est plutôt privé, si on peut dire, ben on n'a qu'à communiquer avec le maître de chais. Ou en tout cas, il y a toujours moyen de s'arranger. Quand on fait une belle découverte comme ça, on peut, c'est pas un maître de chais vraiment pour le gin, mais je pense que vous suivez, on peut toujours communiquer avec celui qui le fait et puis voir si on est capable d'en acheter et tout ça.
Ouais.
Alors, justement, l'île noire... offre un des gins d'un de mes certains héros qui est Martin Picard. Alors, il offre le pied de cochon, la matante ou le mononcle comme gin au choix.
Il fallait que tu plugues Martin Picard.
Exactement ce que j'allais dire.
On te connaît, Geneviève.
On va commencer à mettre des X à chaque fois que tu nommes Martin Picard.
Je suis très, très à l'aise avec l'étiquette que vous m'accordez actuellement. Donc, mon troisième endroit de quatre, et maintenant, je vais vous parler, c'est ça, du Bishop's and Bag. Alors, tant qu'à lui, il nous offre une soixantaine quand même de gin québécois. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fabrique même sa propre concoction, portant le nom de son endroit. Alors, ça s'appelle le Bishop and Bag Gin. C'est ça qu'on commande, si on le désire. Et lui, la description qu'on en fait de ce gin-là, c'est épicé, complexe, thé noir, pamplemousse, luzerne, sapin baumier, réfort et cannelle.
Mon Dieu, ça doit être vraiment très parfumé. Hein?
Tout un mix, hein?
Ouais.
Vraiment.
Bishop and Bag... qui n'est pas sur Bishop, mais sur Saint-Viateur.
Ah, c'est fort probable.
Oui, je te le dis, moi.
Oui, moi, je te crois. Je n'avais pas nécessairement noté ça, mais je te crois. Donc, finalement, je passe à mon tout dernier élu des places ou bars à gin, en fait, montréalais. Est-ce que vous savez, avant que je vous nomme l'endroit en question, est-ce que ça vous dit quelque chose, un speakeasy? Savez-vous un petit peu c'est quoi? Ou...
Je suis dans l'ignorance.
C'est un endroit où on parle facile.
J'allais dire la même chose, où ça dégourdit la bouche.
C'est sûr qu'un speakeasy, c'est d'origine américaine du temps de la prohibition. Okay? OK? Et on appelait ça également à l'époque un blind pig ou un blind tiger. Donc, un cochon aveugle ou un tigre aveugle. Puis, bien sûr, c'est des endroits où est-ce que l'adresse n'est pas révélée à personne. Ça doit demeurer secret parce qu'évidemment,
c'est intéressant.
L'alcool était interdit, prohibé. Ben, c'est ça, un certain temps.
Fait que donc, c'est quoi? Tu le sais le jour même? Tu reçois une invitation?
Tu reçois un texto, puis c'est dans un appartement obscur, puis là...
Ben, il y a certains...
Okay. Ah, mais...
Ça m'a hein?
Ça me tenterait presque qu'on s'en parte un, parce que vous avez l'air d'avoir des très, très bonnes idées ici.
Non, mais c'est ça le concept. Le concept, c'est que tu reçois une invitation à la dernière minute, puis là, tu te présentes là-bas.
Oui, ça fait partie des concepts, mais moi, l'endroit dont je vous parle actuellement se nomme le quatrième mur. Okay? Ça, c'est le nom du speakeasy. Ils sont spécialisés en gin québécois parce que c'est ça, c'est très, très peu d'informations là, qu'on peut savoir comme ça sans s'être pointé sans avoir fait l'expérience complète. Okay? C'est très secret là, ce qu'ils offrent et tout ça. Mais oui, ils sont réputés en gin québécois et l'endroit va plus loin dans l'histoire de prohibition et tout ça. Ils proposent même des énigmes à résoudre de disparition. Ils mettent vraiment de l'avant une ambiance là, qui est comme on dirait hors pair. Alors, je vais vous revenir avec l'adresse de leur site web d'ici la fin de l'émission parce que visiter le site web, c'est l'adopter. Puis, de mon côté, en attendant, je vous souhaite bonne chance dans vos enquêtes de disparition, mais aussi dans vos découvertes de bons gin québécois.
Il y en a qui boivent du gin ou du Saint-Pierre-Miquelon. D'autres boivent du vin de patate et l'emmène fil mouton. J'en connais même qui disent que du vin de pissenlit, c'est un bien bon petit boire, mais tu fais pipi au lit. Moi, je bois de la bière.
Qu'est-ce qu'on écoutait, Christine?
On écoutait « Moi, je bois de la bière » de Marcel Martel. Saviez-vous qu'il y a des célébrités québécoises qui fabriquent leur gin? En effet, le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal.
Ah, Guy Lafleur!
Ouais, Guy Lafleur, effectivement. Il va sortir son gin le 1er octobre. Le nom du gin?
Guy Lafleur? Non.
Lafleur?
La
le numéro 10.
Numéro 10!
En fait, il va s'appeler 10, en fait. Et un gin qui va refléter Guy Lafleur, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un gin au goût poivré. Pourquoi? Parce que l'anecdote nous dit que Guy Lafleur souvent répétait à son équipe « On va les poivrer à ce moment-là. »
C'est bon! C'est vraiment bon!
C'est pas le seul à lancer son gin. Il y a aussi le groupe Les Deux Frères qui ont lancé cet été le gin qui s'appelle Opimiska. Le nom est tiré d'un lac qui se trouve dans le nord québécois. En fait, encore une fois, il n'y a rien qui est laissé au hasard parce que les arômes reflètent la région d'origine du groupe. Le groupe vient de Chappé, dans le nord du Québec. Donc,
les deux frères, ben oui.
On écoute leur grand succès, Léo Gagné.
Léo Gagné, tu rêves et tu fais rêver tout autour. Toi, c'est pour le soleil que tu cours. Léo Gagné, tu vis comme tu l'as toujours espéré. Moi, ça me donne le courage d'avancer. Pour ce qui me tient à cœur, moi, je vais bûcher.
Quiconque s'est le moindrement intéressé à la question du gin québécois, simple, curieux, amateur ou même collectionneur de gin, connaît sur les réseaux sociaux Madame Gin. Elle a son blog du même nom, elle gère une communauté de près de 30 000 abonnés sur Facebook. Elle donne des ateliers pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur soif de connaissance. Son vrai nom, Emmanuel Ricard, une vraie passionnée de gin. Elle est avec nous aujourd'hui au Cabaret des Acolytes. Emmanuel, bonjour!
Bonjour à vous tous! Bonjour Jean-François!
On peut se tutoyer, hein?
Absolument, oui, je tiens.
C'est un plaisir de t'accueillir au cabaret. Tu as été aux premières loges de l'effervescence du gin québécois des dernières années. Toi qui en as testé, dégusté plusieurs, sinon presque toutes, j'imagine, j'ai le goût de te poser la première question. C'est quoi un bon gin pour Madame Gin?
Un bon gin pour Madame Gin, premièrement, ce n'est pas un gin parfait.
Ah.
Tout le monde pense que je vais adorer ou aimer les gins parfaits. Non, un bon gin pour moi, c'est vraiment un gin qui offre une personnalité,
okay.
Qui est équilibré généralement. Mais même des fois, il y en a qui sont un peu déséquilibrés, je peux les aimer parce qu'ils ont une personnalité particulière. Je favorise tout ce qui est naturel, évidemment, au niveau des aromates.
Un gin québécois, c'est souvent un hommage à sa région, quelquefois historique. Il y a des distilleries qui valorisent, comme tu dis, les aromates du Québec, valorisent le terroir québécois. On a réellement l'impression de boire le Québec lorsqu'on boit des gins québécois. Est-ce que nos artisans sont les seuls au monde à travailler le gin de cette façon, de cette manière? Est-ce que c'est typique de notre coin de pays?
Ah non, non, non. Tu en as beaucoup aux États-Unis.
Okay.
Il y a beaucoup d'endroits où ils le font vraiment de façon terroir. Tu as aussi, évidemment, tu sais, les Écossais et tout ça. Quand ils sont en Angleterre puis en Écosse, c'est plus particulier parce qu'ils ont tellement un historique, eux, d'avoir des colonies, tandis que nous, on est une colonie.
Oui.
Tu sais, voilà la différence. Donc, eux, évidemment, par rapport aux aromates, ont beaucoup d'aromates qui venaient de tradition par les voyages dans les colonies. Tandis que nous, ben oui, on a tout à explorer aussi qui vient de chez nous, mais eux le font aussi. Même, tu sais, dans le Royaume-Uni, je parle de l'Irlande, je peux parler aussi d'Écosse. Donc, ils vont prendre des choses de leur coin, mais ils ne viendront pas aussi pour faire des additions d'aromates telles que les agrumes ou des genièvres qui viennent d'ailleurs. On le fait, nous aussi, de toute façon. Très difficile de s'approvisionner 100% québécois. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est très, très rare. 100% québécois, c'est
ben
très
oui,
rare.
Lors de nos recherches, j'ai découvert que la baie de Genièvre, on pourrait croire qu'elle vient d'ici, qu'elle provient d'ici, mais non. La plupart des distilleries se procurent la baie de Genièvre des Balkans, d'Europe. Est-ce que, par exemple, il y a des producteurs qui jugent important que l'entièreté de leurs produits soit québécois? Est-ce que pour toi... tu sais, je pense à Jonathan Roy de la distillerie Fils du Roi, Joël Le Pelletier de la distillerie Saint-Laurent, Rimouski, qui travaillent, qui veulent travailler des produits très, très québécois, peut-être même 100% québécois. Est-ce que pour toi, c'est important que tous les ingrédients soient d'origine québécoise?
Bon, dans les deux cas que tu viens de me nommer, oui, souvent, ils vont prendre des aromates qui viennent de chez eux.
Oui.
Particulièrement Saint-Laurent, ils vont prendre l'algue, la minère. Fils du Roi, tu utilises beaucoup de ces choses, mais pour l'instant, ils sont encore sur l'alcool neutre qu'on se procure en Ontario.
Exact.
Ces deux-là. Donc, tu vas trouver la Société Secrète qui fait un 100% québécois.
Oui.
Et t'as Menot aussi qui vont en sortir un nouveau là qui va être 100% québécois. Ils sont très, très rares, les gins 100% québécois.
Et est-ce que c'est important de...
Oui, pardon.
Oh, excuse-moi, vas-y. Pourquoi ils sont rares?
Est-ce que c'est important pour... parce que c'est beaucoup plus cher. Si tu achètes de l'alcool neutre en Ontario au litre,
oui.
Tu vas payer entre... Parce qu'il y a des qualités là-dedans aussi, puis il y a différents grains aussi qui sont utilisés. Tu vas payer entre 3 et 7 $ le litre. Tandis que quand tu fais ton propre alcool, tu te retrouves plus dans un coin entre 12 et 15 $ le litre.
OK. OK, toute une différence.
Okay. Exactement, dans ta fabrication de base. Donc, il faut vraiment être motivé et il faut partir avec des poches un peu plus pleines, généralement, comme distillerie, pour se permettre de faire ce qu'on appelle du grain à la bouteille ou du champ à la bouteille pour certaines.
OK. Le monde vinicole québécois, et là, je parle pas du gin, je parle du vin, souffre oui. quelque peu de sa réputation un peu vieille de plusieurs décennies sur la qualité de son produit, sur la qualité du vin en soi. Est-ce que pour le gin québécois, c'est différent? Est-ce que nos gins sont comparables à ce qui se fait à l'étranger?
Absolument.
Oui.
De très belle qualité. Mais là, il faut comparer des pommes avec des pommes, comme
oui.
on dit. Parce que tu vas avoir, nous, qu'on a beaucoup aussi de gins de l'étranger. Ça va être des gins qui ne sont pas nécessairement micro. Série, tu sais, tu vas avoir des grands vendeurs là, qui sont rendus comme une étape plus haute là, que la micro-distillation. Donc, la micro-distillation, tu en as dans tous les pays ou presque. Là.
C'est ça. C'est difficile de comparer des micro-distilleries parce qu'ils ne seront pas offertes à la SAQ, ces micro-distilleries internationales.
Très
là,
rarement.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Voilà, très rarement. Il y en a quelques-uns, mais c'est très, très rare. Puis ceux qu'on reçoit généralement sont presque au niveau déjà, mais c'est de moins en moins vrai, pour que je te dise. On a quand même des merveilles qui nous arrivent. D'ailleurs, les gens de la SAQ sont très, très... eux aussi, ils avancent et ils progressent dans la connaissance de tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils nous dénichent des trésors maintenant. Mais c'est sûr que si tu fais affaire avec un gin comme Hendrix, mais la diffusion de ça est plus comparable à notre Ungava.
Oui, exact.
Qui est maintenant diffusé par Pernod Ricard en Europe.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que C'est un niveau un petit peu plus élevé là, dans la diffusion.
Arrive l'automne bientôt, Emmanuel, et est-ce que tu as un coup de cœur qui pourrait nous faire apprécier encore davantage cette saison? C'est quoi ta découverte? Est-ce que tu as quelque chose, un gin que tu as en tête qui peut nous faire aimer pour les couleurs de l'automne?
Écoute, pour l'automne, moi, j'aime bien automiser mes gin toniques.
OK.
Donc, en ce moment, je trouve que quand c'est la saison de l'automne, c'est le temps de sortir les gins qui ont été faits vraiment comme des classiques. On en a quelques-uns au Québec, comme le gin très carré de la distillerie de Québec. On a aussi le beau gin Trois Lacs au citron et aussi le Supersonic. OK, ça, c'est des gins qui sont vraiment faits sur des bases classiques. Et c'est intéressant parce que là, on se prend un bon tonic, là. Puis après ça, on le garnit de façon automnale, notre gin tonic. C'est là qu'on va aller mettre des pommes, des tranches de pommes fraîches dedans. Ceux qui apprécient la cannelle, on peut mettre un bâton de cannelle et je t'assure, c'est pas juste bon, c'est excellent.
OK, c'est bon. Emmanuel, je ne t'ai pas présenté comme ça dans mon introduction, mais j'aurais pu. Tu n'es pas seulement une passionnée de gin, tu es aussi une artiste. Et là, se dessine tout un projet lié au gin et à la création, à sa création. Une première pour toi, tu travailles actuellement un projet pour lancer un gin à ton nom sur le thème de Noël. Parle-nous un peu de ce projet-là.
Ah oui! Ah, je suis contente! ben oui, écoute, moi, ça fait longtemps que je voulais m'impliquer dans la création d'un gin, sauf que pour moi, si je m'engage, si je me lie à un produit régulier en tout temps dans l'année, ça va faire en sorte que je vais être obligée de laisser tomber ma mission et je ne voulais pas laisser tomber ma mission que de faire découvrir les distilleries et les gins du Québec et d'ailleurs. Donc, il me fallait un projet ponctuel et c'est une belle nuit où je n'ai pas dormi, car parfois le hamster de la création me laisse pas dormir, que j'ai eu l'idée de faire un gin de Noël. Et parce que ça existe, hein, c'est une catégorie en tant que telle, le gin de Noël, qui est vraiment fait en Angleterre depuis, ben, au Royaume-Uni, parce que c'est vraiment surtout en Écosse que la tradition est forte.
D'accord.
On en trouve encore d'ailleurs. Et ce gin-là, ben, ça me prenait une distillerie qui m'avait épatée par ses produits, par la finesse. Et c'est la distillerie de Montréal. Donc, je les ai appelés, puis ils ont été assez fous pour embarquer dans le projet. Donc, ça va sortir à l'automne. Tout est passé à la SAQ. Maintenant, il suffit de rentrer dans le processus de la grande distillation, tu sais, en quantité plus grande, parce qu'on part toujours sur un petit alambic. Après ça, le défi, c'est de passer ça sur un grand alambic, mais Lilian est excellent là-dedans. Après ça, ça va être l'embouteillage et tout le processus qui s'ensuit à la SAQ, puis ça va être tellement un plaisir pour moi, parce que les fêtes de Noël, pour moi, c'est vraiment quelque chose de convivial. Je vais être trop contente d'être dans la cuisine des gens pendant qu'ils préparent leur truc de Noël avec un petit gin, d'être dans les fêtes de Noël avec eux.
Emmanuel Ricard, alias Madame Gin, ça a été un plaisir de t'accueillir. Pour ceux qui ont été émerveillés par sa volubilité, sa passion, ben vous pouvez la rejoindre sur sa communauté à facebook.com/madamegin blog. Il y a aussi le laboratoire de Madame Gin sur Instagram, on peut te retrouver. Et tu donnes aussi des ateliers à Montréal. On peut se renseigner notamment à l'école des bars Made with Love à Montréal.
Jean-François, j'ai un autre groupe aussi, mais les gens l'associent pas à Madame Gin, mais c'est à moi aussi. C'est les filles aussi aiment le gin. On est une communauté de 8000 aussi.
Parfait. Madame Gin, Emmanuel Ricard, merci beaucoup pour ton passage au cabaret.
Merci Jean-François. Merci à tous.
Merci.
Je voudrais une chambre avec un lit double, un gin double, de la brillantine, de l'eau de Cologne et ma clé. Je sors de Sing Sing.
Rares sont les chansons québécoises avec le thème du gin ou même avec un mot, et c'en était une, Christine. Il le dit une fois, c'est là. Alors, on aura tous reconnu un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes.
En fait, on écoutait Jean-Pierre Ferland, vous l'avez reconnu, hein, en fait, tiré de son album Tique jaune. Mm-hmm. 86 ans, Jean-Pierre Ferland, ce tombeur de femme.
Hein? Eh là là!
Je me souviens d'avoir vu il y a plusieurs années un spectacle de Jean-Pierre Ferland. On devait être aux alentours de 700 dans la salle, mais j'étais convaincue qu'il me chantait les chansons à moi toute seule. J'avais 25 ans, il en avait 65 et je suis tombée en amour.
Alors, oh wow! Quel voilà, beau témoignage!
Si vous avez la chance de le voir en spectacle, Jean-Pierre Ferland, en fait, vous...
Est-ce qu'il fait encore des spectacles? Je sais pas. Moi, je suis allé voir son dernier spectacle apparemment, mais il en a fait après. On sent très bien.
Il a fait plusieurs derniers.
Oui, c'était son dernier.
C'est comme Dominique Michel, le dernier bye-bye.
Exact.
Tout à fait. D'ailleurs, Jean-Pierre Ferland fait ses débuts avec Clémence Desrochers vers la fin des années 50. Moi, j'ai envie de vous demander quelle est votre chanson préférée de Jean-Pierre Ferland? Geneviève?
Ben, j'en ai tellement. Plusieurs, Christine, pour en choisir seulement qu'une, je vais te le dire, la première que j'ai apprise quand je faisais de la chorale et que j'avais comme 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça, c'est « Fais du feu dans la cheminée ».
Ah oui! Juanito!
Moi, c'est plus « Une chance qu'on sort ».
Ah oui!
Une chance tu m'as.
Jean-François?
Moi, c'est une chanson, peut-être que je l'aime plus interprétée par Ginette Reno, mais quand même, un peu plus haut. Je sais que c'est lui qui l'a écrit.
Ah, écrite. C'est beau aussi.
Ouais.
Magnifique.
Sauf que ça vous sonne tous des cloches. Hein? Moi, c'est la chanson « T'es belle ». Mais parce qu'il me l'a chanté à moi. C'est à moi directement, tout ça, juste à moi.
Non, c'était à moi. Arrête!
j'ai même cru que c'était à moi.
Alors, on continue en musique avec une chanson de Félix Leclerc. Écoutez bien le quatuor.
Oui, parce qu'il faut être public averti, hein?
Ah oui. Jean-Pierre Ferland, Monique Lirac et Gilles Vigneault.
Il nous reste les cailloux, les gros puis les petits.
Oui, mon âme belle vue.
Les païens font nos habits avec la laine de nos moutons.
Oui, mon âme belle vue.
Les Écossais notre gin avec notre blé.
Oui, mon âme belle vue.
Les Américains nous vendent notre huile.
Oui, mon âme belle vue.
Notre morue.
Oui, mon âme belle vue.
Nous reste la barbotte dans l'eau polluée.
Oui, madame Bellevue.
Un vieil alambic dont on n'a pas le droit de se servir.
Oui, madame Bellevue.
Il parle de l'alambic qu'on n'a pas le droit de se servir et ça fait référence aux restrictions législatives qui fait en sorte qu'on n'avait pas le droit de se servir des alambics jusqu'à 2018. Et, ou non, c'est pas vrai ça. C'est l'allègement de la vente 2018. Il y a eu des allègements plutôt avant ça pour permettre aux micro-distilleries de se servir des alambics. Une génération ou deux plus vieilles que moi ont reconnu des arts de ce qu'on appelle des rogations. C'est une cérémonie catholique plaintive. Là, donc, ils imitaient cette cérémonie-là, la gang. On poursuit le cabaret des acolytes. Je me tourne vers Juan maintenant, notre architecte de l'histoire. Que serait le gin aujourd'hui s'il n'avait pas été popularisé par son cocktail le plus répandu et le plus simple à faire, le gin tonic? Juan, tu nous démêles le gin tonic.
Alors en effet, tout d'abord, mes chers acolytes, il va de soi que le gin tonic est composé de gin et de tonic.
Ah ben, tu nous en apprends,
C'est un beau démêlage, hein, c'est un beau démêlage.
Surprise!
On peut même voir que dans certaines littératures, on peut lire qu'il s'écrit bien en trois mots. Gin et tonique. Encore un beau déménage. donc, s'intéresser à l'histoire du gin tonic, vous l'aurez compris, c'est s'intéresser à ses composants et à qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse marier ces composants ensemble. Donc, on va commencer par un petit peu l'histoire du gin. Donc, quand on lit un peu là-dessus, on se rend compte rapidement que de prime abord, généralement, on situe l'origine du gin en Hollande. Fait que ça, c'est d'un commun accord avec tout le monde. Avec des recherches un peu plus poussées, et je vous assure, pas du tout partiales, mais pas du tout, on se rend compte...
Y a-t-il de l'Espagne là-dessus?
Exactement. On se rend compte que finalement, les racines initiales de gin, son premier ancêtre, on parle bien de son premier ancêtre, était en réalité bel et bien franco-espagnol.
Ah ben...
Un peu comme moi.
Donc, pas mal comme toi.
Pas mal comme moi, oui. Moi, je suis 100% espagnol, mais tu sais. Donc, En fait, initialement, tout commence avec Antoine de Bourbon, qui était roi de Navarre, une région donc située au niveau du Pays basque espagnol, qui créa au XVIe siècle ce que l'on appelle alors le vin des pauvres. Oh. Une eau de vie que déjà on parfumait au genièvre, et on a là donc l'ancêtre du gin, mais avouons-le, de très mauvaise qualité, comme l'indique son nom. C'est plus tard que le docteur hollandais Franciscus de Labeaume créera à partir de cette eau de vie une recette pour accentuer les vertus médicinales et en faire un remède dont il se servira notamment pour lutter contre la peste. Ah. On assiste donc là à la naissance du Jenever en 1650 en Hollande. Je vous le concède. C'est très peu de temps après que les Britanniques reprendront alors le Jenever. Ils améliorent encore une fois la recette et c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de gin. Petit point important pour la suite de l'anecdote, l'armée britannique avait d'ailleurs pris le pli de donner à chaque soldat sur le point d'aller à la bataille une dose de ce nouveau spiritueux pour réduire leur anxiété. Ah. On conserve ce détail pour la suite de l'histoire, mes chers acolytes. Donc tout cela dit, en Angleterre, il faut attendre 1688 avant que Guillaume d'Orange fasse du gin une boisson plus populaire que jamais et il avait plusieurs raisons pour cela. Premièrement, c'est moins cher que la bière. Et deuxièmement, les guerres avec la France empêchent les importations de vin et il fallait donc bien contenter le peuple d'une façon ou d'une autre. De là, la consommation de gin explose en Angleterre au point qu'on voit toutes sortes de gin de derrière les fagots sortir un peu partout, de très piètre qualité et qui rendent même les gens malades, voire pire, les tuent.
Et là, on est en quelle année à peu près?
Là, on est entre 1688 et 1794.
Ok.
Fait qu'en 1794, justement, donc un siècle plus tard, un siècle après que Guillaume d'Orange ait fait en sorte que ça devienne vraiment populaire puis que tous les gins sortent à droite à gauche, le gouvernement anglais se penche sur la question du gin et il décide de réglementer sa fabrication, ce qui donnera au gin la réputation et les procédés d'élaboration qu'on lui connaît aujourd'hui.
Okay.
Donc c'est 1794. Mais passons au tonique, parce que le gin tonic, c'est pas juste du gin. De son côté, l'histoire du tonic commence dans les Andes, en Amérique latine, avec les Incas. Donc, au XVIIe siècle, les peuples Incas sont alors envahis par les Espagnols et montrent à ces derniers comment se guérir de la malaria à partir d'un extrait d'écorce de quinquina, aujourd'hui connu sous le nom de la quinine. C'est un alcaloïde naturel, en fait.
Et ça guérissait de la malaria?
Ça guérit de la malaria. En fait, la malaria, c'est le paludisme, en fait. Puis c'est une maladie qui se transmet à l'homme par des piqûres de maringouin. Fait que si vous faites piquer dans des régions chaudes, tropicales, ça se peut que vous attrapiez la malaria.
Et qu'on vous donne un gin tonic.
Ce ne serait pas une mauvaise solution. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette connaissance qu'on sauva notamment la vie du dauphin de France de l'époque, le fils de Louis XIV, qui lui avait été gravement malade. Il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que les scientifiques arrivent à isoler l'ingrédient principal de cette mixture qui guérit la malaria.
Parce que jusqu'avant, ils ne savaient pas c'était quoi exactement. Là. Donc, ils n'avaient pas identifié que c'était la quinine, c'est ça?
Ben, ils avaient la mixture, puis ils savaient que c'était à partir de quinquina, puis ils l'avaient appelée la quinine, mais la molécule en tant que telle, ils ne l'avaient pas isolée.
D'accord, OK.
Et donc, à cette époque... Pour consommer la fameuse quinine, elle est en fait mixée avec de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse qui, elle, existe depuis 1766, puisqu'elle a été inventée par le Suédois Bergman. Et ce mixte de quinine et eau gazeuse, on va l'appeler l'eau de tonique. Ah, de là est née l'eau de tonique. Ah, ouais. Mais comment s'est fait le mariage entre les deux, me direz-vous?
Mais comment se fait le mariage?
Alors, j'allais poser la même question.
Exactement, Jean-François, Christine, Geneviève, je vais répondre à vos questions. Le mariage du gin tonic se fait par le plus grand des hasards, en fait. Au même moment que les scientifiques isolent la quinine de la mixture des Incas, donc au milieu du 19e siècle, l'armée britannique est alors stationnée en Inde où sévit justement la malaria. Les Anglais décident donc de prévenir les éclosions de malaria et de faire boire cette eau de tonic avec sa quinine à ces soldats qui en ont donc leur ration quotidienne. Et on se rappelle ce que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait garder comme anecdote.
Les soldats.
L'armée britannique avait d'ailleurs pris le pli de donner à chaque soldat sur le point d'aller à la bataille une dose de gin pour réduire leur anxiété. On peut facilement imaginer ce qui s'est produit. Pour rendre le tonic plus buvable ou encore pour faire d'une pierre deux coups. Les soldats ont alors mixé leur ration de gin et leur ration de tonic. Est alors né ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de gin tonic.
C'est vrai, parce que le tonic tout seul, c'est pas très agréable.
Hein? C'est pas très bon, non. C'est pas très bon, parce que c'est très amer. Donc, l'essor du gin tonic, elle vient un petit peu par la suite. C'est un peu plus contemporain. On dénote plusieurs leviers qui ont permis au gin tonic et au gin et au tonic, en fait, d'éclore et de se populariser. Premièrement, il y a effectivement l'effet levier de la prohibition aux États-Unis. Donc entre 1920 et 1933, le gin devient très populaire puisqu'il est facile à produire. De l'alcool de baie de genièvre, une grande baignoire pour distiller. Jen, tu nous disais tout à l'heure que pour faire son gin à la maison, on était capable d'avoir un matériel aujourd'hui. À l'époque, ils faisaient ça dans leur baignoire.
Mais je suis entièrement d'accord et je seconde dans le sens que j'ai également lu que ça se fait encore, mais il faut être vachement sûr de...
Exactement.
C'est une baignoire.
Et oui, en effet, il faut avoir une recette ou il faut l'avoir testée plusieurs fois.
Il faut surtout tester le bouchon.
Exactement. Ah, c'est le plus important, apparemment. Hein? Je ne sais pas.
Il faut être capable de prendre son bain ailleurs aussi. Ouais,
exactement. Exactement. Donc, on assiste là à la démocratisation du gin et donc du gin tonic. Si on regarde un petit peu dans le monde, aujourd'hui, les Philippins sont les plus grands consommateurs de gin. Ils représentent 43% de la consommation mondiale de gin. Et d'ailleurs, plusieurs gins québécois sont réputés mondialement, comme par exemple le Biori Gin, dont on a déjà parlé, qui lui est de Québec. Il a remporté 4 distinctions sur la scène internationale, mais aussi le gin Abel, le gin Portage et probablement d'autres qui sont passés sous mon radar. Sur la scène québécoise, Jean-François l'a dit tout à l'heure, depuis un certain nombre d'années, la SAQ voyait ses ventes de spiritueux augmenter très significativement et parallèlement, le gouvernement québécois a mis en place un certain nombre de mesures qui ont permis d'apporter quelques changements aux différents permis pour les micro-distilleries, ce qui nous amène aujourd'hui à voir l'apparition de tous ces gins québécois qui sont disponibles sur nos tablettes aux mille et un arômes différents.
Oui, il y a d'autres facteurs aussi, Juan, qui font en sorte que le gin est popularisé ou il y a une croissance. Là. Il y a les distilleries, les micro-distilleries veulent aussi produire un alcool peut-être un peu plus noble, celui du whisky. Donc, et le whisky, ça prend du temps à fermenter pour avoir l'appellation. Et donc, entre-temps, bien, on fait le gin qui, lui, ne nécessite pas, pour la plupart, il y en a quelques-uns, le Madison, dont le Madison qui nécessite une petite fermentation. Mais il y a aussi également la croissance peut-être de l'aspect culinaire de la chose. On aime ça cuisiner, on aime ça faire des cocktails aussi maintenant. Puis l'effervescence des cocktails vient en sorte que il faut les ingrédients qui viennent dans les cocktails. Donc, ça contribue aussi à la croissance de ça.
OK, c'est très intéressant, Jean-François. Donc, pour conclure, au gin tonic, avec mes recherches sur son histoire, j'ai pu comprendre que son secret ne réside pas seulement dans le gin. Pour qu'il soit exceptionnel, il y a 2 autres aspects à considérer. Le premier, c'est qu'il faut de gros glaçons pour que ceux-ci fondent moins vite et ça permet d'éviter que les bulles et le reste des arômes ne soient trop rapidement dilués dans l'eau. Il faut aussi miser sur la qualité du soda tonique. Ce dernier représentant quand même les 3/4 du gin tonic. Il en existe plusieurs qui sont 100% québécois, comme le 1642, l'eau tonique littorale, également 100% québécoise, ou encore le Jack's tonic, qui lui est plus un sirop tonique, donc plus concentré et plus amer que l'eau tonique à laquelle on est habitué. Et le mot de la fin, n'oubliez pas, en buvant du gin tonic, vous pourrez garder la santé grâce aux vertus médicinales du gin, comme l'ont fait les Britanniques, mais aussi du tonic. Mais c'est comme tout, à consommer avec modération et raison.
Modération, surtout le tonic, hein?
Exactement, Jean-François, t'as tout compris.
J'ai connu des tas de garçons qui n'avaient de flamme que pour la boisson. Celui que j'aime. Il y en avait bien un autre, je l'appelais Jean. Il avait le teint pâle et mauvaise mine. Brandy, c'est celui que j'aime.
Bon, elle préfère Brandy, je pense. Elle préfère Brandy au Jean.
On écoutait Frida Bocara, j'en pensais avec la chanson, vous l'aurez deviné, Brandy. C'est pas John. En fait, des jeans, il y en a pour tous les goûts. Puis j'ai envie de vous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on l'aime pas.
Oh.
Parce que quand
on n'aime pas notre gin, on achète une bouteille puis on n'aime pas la bouteille.
Ou alors on l'a fait exactement. Dans la baignoire puis on ne l'aime pas en tout.
Ah oui!
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait avec les bouteilles qu'on n'aime pas? Donc, ça pourrait arriver, en fait, puis j'ai recensé quelques solutions.
Des cadeaux d'autres à des personnes qu'on aime moins?
Ah, excellent! Je n'avais pas noté, effectivement. Ou des personnes qu'on aime plus, en fait. C'est sûr que si la bouteille est ouverte, c'est un peu plus difficile à donner en cadeau d'autres, mais bon, tu sais, on peut faire des cadeaux recyclés. Mais assurément, on peut faire des recettes avec la bouteille de gin qu'on n'aime pas.
Ben oui!
Des nouveaux cocktails. On peut aussi faire des recettes, par exemple, un Gravlax au gin.
Oh, wow, ça doit être bon,
oui, une tarte tatin flambée au gin.
On a vu ça récemment sur, je pense, le blog de Madame Gin. Non, pas le blog, sur sa page Facebook. Là.
Sur sa page Facebook, tout à fait. C'est de là que j'ai pris l'idée. J'ai salivé en voyant cette recette.
Et on peut faire aussi de l'extrait de vanille, l'essence de vanille. C'est comme ça que ça s'appelle, l'extrait de vanille? L'essence de vanille,
ouais.
Ouais.
Oh, oui.
Ah, oui. Avec les bâtons, là, on peut les mettre dans un bocal, voyons. On peut les mettre dans un bocal. Normalement, c'est de la vodka ou du rhum, mais on peut prendre du gin également.
Hein? Ah, c'est intéressant.
Ouais.
Ça peut amener d'autres arômes, effectivement, Jean-François, bonne idée.
Excellente idée à donner au professeur à Noël ou à la fin d'année.
Ah, une petite bouteille d'essence de vanille, c'est bon.
Faites par les enfants.
Là, tu lui demandes, en passant, peux-tu avoir une bonne note, s'il te plaît?
Alors, au professeur, on rappelle qu'il y a des vertus médicinales au gin, hein, donc c'est bon pour vous.
J'ai une deuxième solution. En fait, vous pouvez être tenté de l'échanger ou même la vendre parce que les collectionneurs sûrement en voudront. Donc, vous pouvez tenter le coup. Et troisième solution, si c'est une bouteille ronde, vous pouvez l'utiliser comme rouleau à pâte.
Merci, Christine.
Il y en avait un troisième, s'appelait Chéri. Il était rose et blond et doux comme une fille. Au brandy, c'est celui que j'aime. Et puis un quatrième.
Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes. Cette année, nous avons quelques nouveautés. Parmi celles-ci, Janelle Touchette se joint à notre équipe et sur la grande scène des acolytes, elle nous fera des chroniques à l'occasion. Alors, tu vas apporter ta bonne humeur et tu vas surtout nous présenter tes trouvailles sur le thème de la semaine. Janelle Touchette, bonsoir!
Bonsoir, Jean-François!
Je suis très heureux que tu participes au Cabaret des acolytes ce soir.
Oui, moi aussi, je suis vraiment heureuse de collaborer avec vous cette année.
Juste au son de ta voix, on entend cette gaieté. Alors, Janelle, ça débute. Les distilleries du Québec rivalisent d'originalité pour faire démarquer leurs produits, on le disait en introduction. T'es allée à la recherche des produits qui t'apparaissaient les plus originaux.
Oui, absolument. J'ai fait des trouvailles assez étonnantes et je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, le premier provient de la distillerie du Fjord, kilomètre 12.
Oui.
En fait, l'originalité ici provient du nom. Je vous explique. Histoire familiale, un père, ses deux fils. En fait, le nom de ce gin provient du fait qu'au 12e kilomètre du chemin des Monts-Valins, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'écoule une eau de source naturelle d'une pureté incroyable.
Mmh.
Donc, en fait, oui, puis je mentionnais histoire familiale. En fait, ils se sont inspirés de la richesse boréale de leur région pour créer le gin. C'est hyper charmant. On fait le gin à partir de bourgeons de sapin baumier, poivre des dunes, nard d'épinède, feuilles de framboisier sauvage. En fait, ce sont tous des ingrédients cueillis à la main dans leur environnement, à même la distillerie, donc au 12e kilomètre du chemin des Monts-Valins.
Sapin baumier, ça fait effectivement très boréal. Ta deuxième découverte?
Ma deuxième découverte, Madame Jean en a fait mention rapidement tantôt. Ça provient de la Société secrète et c'est le gin Les Herbes Folles,
oui.
Situé dans une ancienne église anglicane, oui, pardon, au bord de la mer, au Cap-Espoir. C'est une distillerie unique en son genre, en fait, en raison de son architecture, mais aussi de son procédé artisanal. On produit un tout petit lot, de gin brassé fermenté tout doucement. Puis, on en a parlé tantôt, Mme Gin mentionnait que c'était un gin 100% québécois. Effectivement, on ne fait qu'un petit nombre de bouteilles. Ils sont en fait affinés dans des barriques de chêne français.
Petit lot, on parle d'une centaine de bouteilles?
Oui, ben en fait, selon mes recherches, on parle de 100, 200 bouteilles maximum par année.
Okay, donc, effectivement, bon, par rapport à ce que disait Mme Jean tantôt, le fait que ce soit purement québécois fait en sorte qu'il y a moins de bouteilles, dans le fond.
Oui, c'est une fabrication à la main, de la cueillette à l'emboutage complètement. Oui.
Ta troisième découverte, je pense que c'est moi qui le mentionnais tout à l'heure, ce gin.
Oui, ma troisième qui provient de la distillerie du Saint-Laurent, le gin vieux. La particularité, l'originalité ici, c'est que c'est infusé aux algues cueillies à la main du fleuve Saint-Laurent.
Ah, je savais pas que c'était cueilli à la main. Je savais que c'était aux algues, mais je savais pas que c'était cueilli à la main.
Moi, j'aurais jamais pensé que ça pouvait être des algues.
Oui. Moi aussi, ça m'a vraiment étonnée quand j'ai vu ça. J'étais surprise de voir que on pouvait faire un gin à partir des algues. Et puis, en plus, c'est un gin de type London Dry. Je vous demande.
Oui.
Un gin de type London Dry. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est?
Non.
Non. Je pense que non, moi non plus.
Non. Oui, peut-être avec vos recherches, vous avez vu ça passer. En fait, pour le bénéfice de nos auditeurs, les types London Dry, ce sont les classiques des classiques. Oui, effectivement, l'appellation est portée sur provient du nom mythique de la capitale du gin en Angleterre, mais en fait, ça vient de son style archi-sec, et ça l'a vu le jour dans les années 1830. Donc, tantôt, quand tu en parlais, Juan, c'est effectivement, ça rejoint ces années-là.
Effectivement, au moment de la réglementation en Angleterre.
Exact. Puis la règle d'or pour un London Dry Gin, c'est que ça, en fait, c'est qu'on n'ajoute aucun... c'est d'en ajouter que des ingrédients naturels. Donc, aucun colorant, aucun arôme artificiel dans le processus de distillation.
OK, d'accord.
Puis, en fait, je veux juste mentionner une petite dernière chose pour le gin vieux. Donc, effectivement, ça se situe à Rimouski. Ça rend hommage à notre beau fleuve Saint-Laurent, cette ville-là qui est située sur le bord du fleuve. Puis, dans le fond, le gin va reposer un an dans des barils de whisky avant d'être prêt à consommer.
C'est particulier pour ce gin, oui, effectivement. Janelle, tu nous amènes dans des saveurs colorées maintenant.
Oui, absolument. Je ne pouvais pas passer à côté de notre sélection de gins colorés qui se démarquent par leur couleur vive et frappante. On a le premier, évidemment, le jaune vif Ungava.
Oui, comment ne pas le remarquer à la SAQ?
Oui, exactement. moi, ce que je trouvais étonnant ici, c'était, bon, évidemment, la couleur qui provient des baies d'églantier, puis qui sont associées à la camarine noire, le thé du Labrador, ronce, petit mûrier, un mélange de l'Arctique et de genévrier nordique. Donc, l'ensemble de cette sélection unique d'herbes et de baies donne la couleur jaune vive.
D'accord.
C'est vraiment intéressant.
Le deuxième.
Oui, le deuxième, le bleu royal, qui évidemment qui est bleu, bleu royal vif. Sa couleur de bleuté 100% naturelle provient de la fleur des pois papillons. Puis ce qui est particulier ici, c'est le nom de la fleur, c'est le Clitoria ternetta. Et c'est une fleur qui vient de la famille des Fabacées.
OK. On a tous souri, je pense, en entendant le nom.
Oui, ben c'est ça. C'est une plante grimpante qui pousse en Asie tropicale, puis son nom provient justement de la fleur qui ressemble à l'organe féminin, donc le Clitoria ternetta, qui on retrouve sous le nom de pois papillon, pois savane ou pois bleu. Son nom provient de là, justement, Juan, tu avais bien vu.
Mais là, la particularité du bleu royal, c'est qu'il change de couleur dû à cette fleur.
Absolument, absolument. La structure chimique peut... la couleur va dépendre de la structure chimique. Ça peut varier selon l'acidité. Donc, ça peut aller du violet rose avec un pH 2, 3, 4 plutôt acide, en passant vers le bleu brillant avec un pH 7 plus neutre. Puis le bleu royal, là, je veux juste mentionner que... Puis j'ai trouvé ça dans mes recherches, où je trouvais ça beau, que son nom reflète la diversité de notre peuple et la pureté de nos eaux vives, ainsi que le trésor naturel et botanique qu'est le Mont-Royal, le gin bleu royal et coloré comme le Québec.
Wow!
Oui.
Janelle, en fin de semaine, on a dégusté des djinns pour jouer le jeu. Hein?
Quelques djinns.
Et le prochain que tu nous apportes, c'était mon préféré parmi ceux que nous avons goûtés.
Mais comment tu le sais?
Ben, j'ai sa feuille devant moi.
Ah, OK, il y a des privilégiés, je comprends.
Allez. Oui, mais en fait, mon cinquième et mon dernier gin que je voulais vous parler, ça provient de la distillerie montréalaise de 1769 et c'est le Madison Park Breakfast Gin qui est infusé à la bergamote et au thé Earl Grey. Avec ces arômes combinés, on sent moins la genièvre, qu'on peut ressentir dans la majorité des autres produits. Puis, est-ce que vous avez dénoté une pointe de cannelle lorsque vous avez goûté?
Oui, je pense pas
quand
que
même.
Tu l'as remarqué.
Ouais.
Moi, je l'ai pas remarqué, mais c'est effectivement mon préféré.
L'infusion finale du mélange d'été puis la couleur ambrée de ce gin-là ont inspiré le nom Breakfast Gin. Donc, voilà, c'était mes trouvailles. Notre créativité au Québec est vraiment impressionnante. La sélection des gins québécois de nos micro-distilleries puise de nos ressources puis offre plusieurs produits originaux. Donc, vraiment, les forêts, les fleuves, les plantes exotiques, notre agriculture même, on a vraiment une belle diversité pour nos amateurs de gin.
Merci beaucoup, Janelle.
Merci. And now the cocaine and gin's got me spinning. Left in the old lost and found. If sorrow's a game, then I'm winning. C'est beau.
Christine. C'est beau, hein? Ouais, c'est un de mes bad boys préférés, Kid Rock, avec la chanson Cocaine and Gin. Saviez-vous qu'il existe des pastilles de goût à la SAQ pour les gins, pour tous les gins, en fait?
Non.
Moi, je ne savais pas, mais je savais qu'il y a des pastilles de goût pour le vin, mais les gins aussi, donc tous les spiritueux, finalement.
Tu me l'apprends.
En fait, spécialement pour les gins, en fait, parce qu'il en existe un aussi pour les spiritueux, mais spécialement pour les gins.
Non, je ne savais pas.
On retrouve la première genièvre avec ce qui signifie qu'il y a vraiment une arôme prononcée de baie de genièvre, agrumes, citron, dry gin, herbacée, végétale. Enfin, on va voir là un peu plus de toutes les herbes, là, en fait, une fruitée, florale, épicée, forestier, boréale, boisée, fumée.
Christine, il y a aussi les étiquettes d'origine Québec. Il y a trois types. Oui. Il y a origine Québec, préparée au Québec et embouteillée au Québec. C'est trois nouvelles étiquettes qu'ils ont publiées récemment et on peut les voir à travers la SAQ lorsqu'on se promène.
Exactement.
Donc, attends, il y a préparé, embouteillé et...
Il y a Origine Québec, donc c'est un produit qui est élaboré par des artisans d'ici et fabriqué par les ingrédients cultivés ici. Il y a préparé au Québec, donc produit fièrement et conçu par des passionnés d'ici, mais peut-être avec des ingrédients d'ici et d'ailleurs, et embouteillé au Québec. Donc, c'est embouteillé au Québec. Cette semaine, je vous parle d'un livre qui m'a fait découvrir le gin québécois, mais également plein de cocktails autour du gin. Je vous parle de deux livres, en fait. Le premier, c'est L'apéro au Québec de Rose Simard et de Max Coubès. C'est audition K.O., Rose Simard et Max Coubès, si vous les connaissez pas, si vous connaissez le média Un ou deux cocktails, ce sont les fondateurs. Ce sont eux également qui sont derrière cet ouvrage, un ouvrage magnifique. Max Coubès est également le fondateur du Quatrième Mur. Geneviève, tu t'en parlais tout à l'heure. C'est ce bar du type, comment tu dis, Speakeasy à Montréal.
Speakeasy, oui. Voilà.
Donc, leur mission dans le livre et aussi dans la vie, là, c'est de faire découvrir des cocktails faciles à faire et à reproduire chez soi. 55 cocktails à base d'alcool québécois et d'ingrédients d'ici. Il y a aussi 14 reportages chez les distillateurs, dont la distillerie Circa et la distillerie Saint-Laurent. Les deux auteurs font vraiment rayonner toute la passion des gens d'ici. Alors, en plus des gins qu'on a déjà abordés à l'émission, dont Be Origin, Kilomètre 12, Les Herbes Folles, Gin Saint-Laurent, Ngava, ils nous proposent une bonne vingtaine de cocktails avec du gin québécois. Et on retrouve aussi Et là, pour les vrais amateurs de gin, là, c'est peut-être intéressant de noter si parmi ces gins, il y a vos favoris. Donc, on retrouve aussi le Wabasso, le Tuya de la distillerie Fils du Roi, le gin de Marie-Victorin et des Subversifs, Artist in Residence, il y a le gin Panoramix et le gin Violette. Et justement, sur le dernier, le gin Violette, il nous offre une recette revisitée du cocktail bien connu, l'Aviation. Le connaissez-vous?
Ben, non.
On me dit que c'est bien connu, je ne connaissais pas. Bon.
Moi, je ne connais pas non plus.
Moi, c'est
ce que c'est. C'est vrai, tu connaissais?
Quelque part. Oui, j'adore, oui. Ah, tout okay. à fait.
Donc,
oui.
C'est avec du c'est avec du marasquin, du citron et une crème de violette. Christine me dit non de la tête, elle ne connaissait pas.
Hey, là, je suis comme, elle m'impressionne, la fille, là, sérieux.
Bon, mais eux, c'est pas Aviation, c'est, ils proposent le cocktail Le Commandant Piché.
Ah, ben comme ça, je le connais.
Ah, ben oui.
Ben oui. Inspiré de leur visite à la maison Lavande à Saint-Eustache. Donc, c'est, je vous donne la recette. 1 once et quart de gin violette, 1/2 once d'eau de vie de framboise civeau, 3/4 once de jus de citron frais et 3/4 once de sirop de lavande. Et on shake le tout. Bon, je vous disais que c'était des recettes, des cocktails faciles à faire. C'est facile, oui, mais il faut que tu aies quand même les ingrédients. Mais pour les amateurs de gin québécois, je pense que c'est un must, ce livre-là. Donc, je répète, L'apéro au Québec de Rose Simard et Max Coubès aux éditions K.O. Je vous parle brièvement de mon deuxième livre. Moins axé sur les cocktails à base de produits d'ici, mais plutôt sur la genèse des cocktails classiques, ainsi qu'une multitude d'anecdotes. Il s'agit de Élixir, une petite histoire illustrée des cocktails de Marie-Ève Bourassa, de VLB Éditeur. Alors, connaissez-vous, par exemple, elle nous donne plein de petites anecdotes et plein d'histoires. Connaissez-vous, par exemple, d'où provient le martini, le nom du martini, ce fameux cocktail dont la recette est 2 onces de gin avec une demi-once de vermouth blanc? Savez-vous d'où ça vient?
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un martini?
Oui, pourquoi on appelle ça un martini, la petite histoire?
Aucune idée.
Bon, mais vous pouvez peut-être penser à la maison. En studio, ils n'y pensent pas, mais peut-être vous pouvez penser à la maison.
On n'est pas vite.
Okay. Ils sont pas vite. Mais au martini et Rossi, peut-être que vous pensez à ça en raison du vermouth. Donc,
moi, en fait, j'ai toujours pensé que c'était un martini, mais si je me rends compte là de ce que tu dis que ça n'en est pas. Hein?
Mais non, selon elle, c'est dans la charmante municipalité de Martinez, en Californie. Alors, Giulio Richelieu invente le Martinez pour un chercheur d'or qui lui permet quelques pépites en échange d'un désaltérant sans pareil. Alors, il a pris la recette du genre Manhattan et il a troqué le whisky pour du gin et il a baptisé ça le Martinez. Et ça a fait le tour des États-Unis et c'est devenu le Martinez.
Ah, quand même! Hein?
Parce que des Martinez, un martini, des Martinez.
Aussi un dirty martini aussi.
Ah, il n'était pas très propre dans le fond.
S'il a fait bien du chemin, là, c'est ça, il est moins propre.
Bon, sur certaines histoires, des fois, on reste un petit peu sur sa fin. J'aurais peut-être aimé en savoir davantage sur les produits. C'est peut-être signe que c'est un bon livre. Là, ça donne le goût de...
C'est absolument signe, j'en prends soin.
Bon, je l'ai feuilleté, l'Élixir, et j'ai trouvé ça vraiment bon comme bouquin.
Moi aussi.
Bon, ben c'est, je vous répète le nom. Non, Élixir, une petite histoire illustrée des cocktails de Marie-Ève Bourassa chez VLB. Justin!
Un autre groupe de Bad Boys, le groupe Kiss avec la chanson Cold Gin.
Vous savez, les acolytes, on adore les produits locaux, n'est-ce pas?
En effet.
Tout est bien sûr.
Eh bien, les tables de concertation bioalimentaire du Québec lancent un défi aux Québécois pendant le mois de septembre. Relevez le défi 100% local en mettant plus de produits locaux dans votre assiette. Et ce, durant tout le mois de septembre, le défi est ouvert à tout le monde. C'est facile, ludique et ça soutient l'économie des régions du Québec. L'adresse du site, c'est défijemangelocal.ca. Vous pourrez en profiter pour mettre du gin québécois dans votre défi.
Pourquoi pas?
Alors voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager autour du gin québécois. C'est déjà la fin de ce cabaret. Ben oui, si vous nous avez aimé. Oui. Aimez aussi notre page Facebook. Rendez-vous sur facebook.com/lecabaretdesacolytes. Et bien, un petit mot de la fin, Juan.
Oui, alors moi, j'ai appris que finalement, ma pastille à la SAQ, c'est herbacée végétale. J'ai mis deux jeans que j'aimais bien. Les deux sont de la même pastille. C'est vert. Moi, je suis vert.
Herbacée végétale, c'est bon.
Merci, Christine.
Geneviève, un petit mot de la fin?
Je veux juste rappeler le site web pour le speakeasy dont on a parlé, le quatrième mur. Alors, c'est vraiment LE4EMUR.AGENCY.
Merci, Christine.
En fait, Jean-François, quel signe astrologique es-tu?
Je suis bélier.
Madame Jean te propose pour le bélier le Jean Bootlegger Botanique numéro 3. Pourquoi? Parce que les qualités du bélier, dynamique, fonceur, déterminé, courageux, brave et persévérant.
C'est
sont
tout à fait moi.
Pas tant que ça. Là, wow.
J'ai un dernier petit point aussi qu'on n'a pas abordé. C'est tout l'aspect des grogs. Quand je suis malade, il me semble qu'un gin eau chaude, un petit citron puis du miel, ça me fait du bien. Puis la SAQ propose justement des recettes de grog et de ponce divers réconfortants. Pardon, je vous partage le lien sur notre page Facebook.
Ben là, c'est le temps de prendre les bouteilles qu'on n'a pas aimées de gin.
Exactement.
Je remercie Emmanuel Ricard, alias Madame Gin, pour sa participation à l'émission, ainsi que Janelle Touchette, qui nous reviendra avec sa belle voix cette saison, soyez assurés. On se laisse la gang sur cette réflexion de Winston Churchill. Le gin tonic a sauvé davantage des vies et d'âmes anglaises que tous les médecins de l'Empire. Bonne semaine, tout le monde!
Au revoir, bonne semaine!
Bonsoir!
Merci!